Audiolib présente American Gods de Neil Gaiman, lu par Valentin Marley. Aux amis absents, Cathy Aker et Roger Zelazny, et tous les points entre eux. Neil Gaiman. Pour Eva et Soucy, Daniel Enyeus. Avertissement à l'usage des voyageurs. Ceci est une œuvre de fiction, pas un guide touristique. Si la géographie des États-Unis d'Amérique évoquée dans ce récit n'est pas totalement imaginaire, bon nombre des sites mentionnés peuvent être visités, les routes empruntées, les itinéraires cartographiés. J'ai pris des libertés. Moins qu'on pourrait l'imaginer, mais des libertés cependant. Je n'ai demandé à personne la permission d'utiliser les noms de lieux réels. Les propriétaires de Rock City ou de la maison sur le rocher et les chasseurs qui possèdent le motel au centre de l'Amérique seront sans doute les premiers surpris de découvrir leur établissement en cépage. J'ai délibérément brouillé les pistes quant à certains endroits. La ville de Lakeside, par exemple, et la ferme plantée d'un frêne au sud de Blacksburg. Cherchez-les si ça vous amuse. Vous avez des chances de les trouver. Enfin, il va sans dire que tous les personnages morts ou vivants, ou les deux, de cette histoire sont imaginaires ou utilisés dans un contexte imaginaire. Seuls les dieux sont réels. Il est une question qui m'a toujours intrigué. Qu'arrive-t-il aux êtres démoniaques quand les immigrants quittent leur patrie? Les Américains d'origine irlandaise connaissent fées et lutins. Ceux d'origine norvégienne, les Nissaires, ceux d'origine grecque, les Vrikolakas, mais seulement par des événements survenus dans le vieux monde. Lorsque j'ai un jour demandé pourquoi on ne voyait pas de tels démons en Amérique, mes informateurs ont eu un petit rire embarrassé et déclaré « Ils ont peur de franchir l'océan, on est trop loin !» avant de me rappeler que le Christ et les apôtres eux-mêmes n'étaient jamais venus en Amérique. Richard Dawson, théorie du folklore américain, le folklore américain et l'historien. Première partie. Ombre. Chapitre 1. Les frontières de notre pays, monsieur? Eh bien, ce sont au nord l'aurore boréale, à l'est le soleil levant, au sud la procession des équinoxes, et à l'ouest le jour du jugement dernier. The American Joe Miller's Jest Book. Ombre purgeait 3 ans de prison. Il était assez costaud et avait plutôt l'air de ne pas se laisser emmerder pour que son plus gros problème soit de tuer le temps. Il se maintenait donc en forme, mettait au point des tours de magie avec des pièces de monnaie et songeait énormément à sa femme bien-aimée. L'aspect le plus positif de la prison, son unique aspect positif peut-être, c'était le soulagement qu'elle apportait, le sentiment d'avoir plongé tout en bas et touché le fond. Ombre ne s'inquiétait plus de se faire prendre puisqu'il était déjà pris. Il ne craignait plus ce que réservait demain puisqu'hier l'avait déjà réservé. À son avis, peu importait qu'on fût ou non coupable du crime pour lequel on était condamné. Tous les tolards de sa connaissance se plaignaient de la justice. Elle leur reprochait invariablement un acte qu'ils n'avaient pas commis, ou pas comme elle le prétendait. L'important, c'était d'être enfermé. Il l'avait remarqué dès les premiers jours, quand tout était encore nouveau pour lui, de l'argot aux repas infects, en dépit de son désespoir et de la pure horreur physique que lui inspirait l'incarcération. Il respirait à nouveau. Ombre s'efforçait de ne pas trop bavarder. Vers le milieu de la deuxième année, il s'ouvrit cependant de sa théorie à Locas Laysmith, son compagnon de cellule. Locas, un escroc du Minnesota, eut son habituel sourire couturé de cicatrices. « Ouais, dit-il, c'est vrai. Et c'est encore mieux quand t'es condamné à mort. Là, tu te rappelles les vannes sur les mecs qui virent leurs bottes au moment où le nœud coulant s'enroule autour de leur cou? Parce que